Alors pour commencer cette prédication, je souhaite nous poser une question à chacun. Quelle est la personne que vous connaissez le mieux au monde ? Quelle est la personne que vous connaissez le mieux au monde ? Je vous laisse quelques secondes. Comme c'est la personne que vous connaissez le mieux, elle devrait venir assez rapidement à votre esprit. Alors moi, j'ai des propositions, pourquoi pas, on peut les dire ou pas les dire. Alors il y a quelqu'un qui me dit que c'est Jésus, la personne qui connaît le mieux au monde. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre encore ? Nous-mêmes, alors soi-même, peut-être qu'on se connaît bien, ouais, d'accord. Alors à part nous-mêmes, ouais. Ouais. Oui, je t'ai entendu, Anne-Marie, que tu disais que c'était Jésus, hein, ouais. Notre maman, son conjoint, voilà, oui, ça peut être notre conjoint, ça peut être un meilleur ami, notre meilleur ami, ça peut être un enfant aussi, ou un parent, effectivement, comme cela a été mentionné. Alors moi, je pense pas trop me tromper en disant que la personne que je connais le mieux au monde, c'est probablement ma femme. Ça fait 18 ans qu'on se connaît. Cet été, en mois d'août, on a fêté 15 ans déjà de vie commune. On peut dire qu'on se connaît bien. On a déjà parcouru un bout de chemin ensemble. Notre connaissance mutuelle, ben forcément, elle s'est approfondie. L'idée qu'on se faisait au départ l'un de l'autre et les a priori qu'on avait l'un sur l'autre, qu'ils soient positifs ou négatifs, on pourrait dire qu'ils sont tombés. Des fois, on utilise l'expression « les masques hein, sont tombés », comme on dit, voilà. Mais rien, finalement, n'a entamé notre amour. Lorsqu'on fait la connaissance de quelqu'un, en plus avec les années, en plus alors on change, hein, et puis tel qu'on s'est connu quand on était jeune, on n'est pas tout à fait les mêmes, etc. Mais on peut évoluer, on peut suivre cette évolution, et quand on suit cette évolution, on peut dire qu'on connaît bien quelqu'un. La question aussi, c'est de savoir pourquoi la personne à laquelle vous avez pensé, hein, que vous connaissez le mieux au monde, pourquoi c'est cette personne-là que vous connaissez le mieux ? Parce que vous la connaissez depuis longtemps, parce que vous l'avez vue changer, parce que vous avez eu l'occasion d'évoluer avec cette personne. Ce n'est pas un curriculum vitae, un CV, ou un test de personnalité qui nous permet de connaître quelqu'un. C'est la relation qu'on va entretenir avec elle. Et il me semble que, voilà, vous me voyez venir, le parallèle qu'on peut faire avec notre relation avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, est valable. Avoir la foi, c'est connaître Dieu, sans cesse apprendre à le connaître et avoir une relation, entretenir une relation de personne à personne avec lui. Car notre Dieu, et c'est une déclaration très forte de la parole de Dieu, est une personne. Il est même trois personnes. Si on en reste à nos a priori sur Dieu, on ne le connaîtra jamais vraiment. Il y a un épisode des évangiles qui peut illustrer cela. Il se trouve au chapitre 6 de l'évangile selon Marc. Et je vous donne juste un petit résumé du contexte qui précède. C'est dans les premiers chapitres de son évangile, Marc a évoqué le début du ministère de Jésus en Judée. Jésus a appelé une poignée de disciples à le suivre, il allait de village en village en annonçant une bonne nouvelle, celle du règne de Dieu qui s'est approché, qui était tout proche. Il guérissait des malades, la renommée de Jésus a vite grandi, des foules venaient l'écouter et le voir, et puis Jésus décide de quitter la Judée et de se rendre dans son pays natal, là où il a grandi, à Nazareth, en Galilée. Et nous lisons ceci. Marc, chapitre 6, versets 1 à 6, la version qui va s'afficher, c'est la version de la Nouvelle Français Courant, une Bible, voilà le temps que ça s'affiche, je profite pour dire un petit mot sur cette nouvelle traduction, donc une nouvelle traduction assez récente, elle doit avoir maintenant 1 ou 2 ans seulement, la Nouvelle Français Courant, que j'aime bien, et puis quand une nouvelle Bible, une nouvelle version sort, c'est sympa de relire des fois des passages qu'on connaît, avec certains mots dont on est habitué, dans une autre version, pour découvrir des fois un petit peu d'autres choses. Alors Gilles vient à la rescousse pour que vous ayez le texte sous les yeux. Donc c'est un PowerPoint que j'avais préparé et que j'avais, que j'avais ouvert. Ah pardon, j'ai oublié peut-être de le préciser, de le repréciser. Merci beaucoup à ceux qui sont à la technique tous les dimanches, qui font ce service fidèlement. J'espère qu'on peut lire. Voilà. Jésus quitta cet endroit. Donc cet endroit, c'était la Judée, et se rendit dans son pays. Ses disciples le suivaient. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Impressionné, de nombreux auditeurs disaient « D'où lui vient cela ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment ces miracles se réalisent-ils par ses mains ? N'est-il pas le charpentier ? Le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne vivent-elles pas parmi nous, ici parmi nous ?» Cela les empêchait de croire en lui. Et Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, dans sa parenté et dans sa maison. » Et il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur manque de foi. Alors ça ne se passe pas aussi bien pour Jésus à Nazareth qu'en Judée. Nul n'est prophète en son pays. C'est une expression qui est entrée dans le langage courant. Qu'est-ce qui pose problème pour les habitants de Nazareth ? Qu'est-ce qui leur pose problème ? C'est qu'ils croyaient connaître Jésus. Ils croyaient déjà bien le connaître. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie ? Et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ? Cela les empêchait de croire en lui, nous dit le verset 3. Les habitants de Nazareth sont impressionnés par les miracles de Jésus et sa sagesse. Mais ils sont incapables de croire en Jésus parce qu'ils le connaissent trop bien. Ou du moins, ils croient le connaître. Il est chez nous, on connaît sa famille, on l'a vu grandir. Ils sont incapables de voir en Jésus autre chose que ce qu'ils connaissent déjà. Le charpentier, le fils de Marie, ils sont bloqués par leurs a priori. J'ouvre ici une parenthèse d'ailleurs qui concerne le thème de l'année. On a là, dans ce passage que nous avons lu, le seul verset de toute la Bible qui nous dit quel était le métier de Jésus. Il était charpentier. Avant d'entrer dans le ministère, Jésus était charpentier. D'autres passages nous parlent de Jésus et on les connaît peut-être un peu mieux comme le fils du charpentier. Mais dans ce passage, il est clairement dit que Jésus lui-même était charpentier, tout comme Joseph. C'est sans doute à ses côtés qu'il a appris ce métier. On ne sait pas grand-chose d'ailleurs de Joseph, mais on sait qu'il était charpentier à Nazareth. Probablement pour les habitants du village de Nazareth, dont il fallait construire les charpentes des maisons, mais aussi pour une ville qui était non loin, à quelques kilomètres de Nazareth, qui s'appelait Sitopolis. Vous savez, il y avait en Israël 10 grandes villes, grandes, j'en sais rien, en tout cas 10 villes, qui étaient de culture grecque. Et donc de langue grecque aussi. Et non loin de Nazareth, il y avait une de ces villes nommée Sitopolis. Très probablement que Joseph a dû commercer aussi avec eux pour fabriquer les charpentes des maisons de cette ville. Jésus a connu le monde du travail. Il a connu le monde des affaires alors qu'il était jeune. Certains spécialistes estiment que les jeunes hommes commençaient à travailler dès l'âge de 14 ou 15 ans. On pense d'ailleurs que c'est pendant l'adolescence de Jésus que Joseph est décédé, puisque les évangiles ne nous en parlent plus du tout. En tout cas, nous sommes à peu près sûrs que lorsque Jésus meurt, à l'âge d'à peu près de 33 ans, Sur la croix, il confie à son disciple Jean le soin de s'occuper de sa mère Marie. Cela signifiait que Joseph n'était déjà plus de ce monde, puisque Jésus en avait la garde en tant que fils aîné de la famille. Il devait prendre soin de sa maman et il confie cette mission alors qu'il va mourir à son disciple Jean. Mais je ferme cette parenthèse qui nous dit quand même quelque chose sur le monde du travail. Jésus a connu le monde du travail. Il a connu du coup sans doute des difficultés. Il a été au contact de clients, il a été commercial. Il a dû apprendre peut-être le grec aussi pour des différents échanges. Et il peut nous comprendre aussi dans cette dimension de notre profession. Mais je referme la parenthèse pour revenir à ces habitants de Nazareth qui croient connaître Jésus et qui sont bloqués, comme je le disais, par leurs a priori. Alors ne leur jetons pas la pierre, ne nous arrive-t-il pas aussi de croire que nous connaissons Jésus, que nous le connaissons vraiment très bien, qu'on n'a plus rien à apprendre de lui ? Pour bien montrer qu'ils connaissent Jésus, ils précisent qu'ils connaissent ses sœurs et ils sont même capables de donner le prénom de ses frères. Et ils sont tout fiers de dire « oui, on le connaît, c'est le fils de Marie, et puis son frère, il s'appelle José, Jude et Simon, et puis ses sœurs, on les connaît aussi, elles vivent avec nous ». Ils sont comme tout fiers de dire cela, alors que c'est ça qui les empêche de croire en Jésus. Est-ce que ça ne nous arrive pas à nous aussi d'être piégés par une telle attitude ? On prétend connaître quelqu'un alors qu'on en reste à notre première impression, ou pire, à nos a priori concernant cette personne. Lorsque nous parlons de personnes qui pratiquent une autre religion, par exemple, il est courant de faire des raccourcis à propos de leur foi, de se baser sur des a priori ou de vagues impressions. Mais si on apprend à connaître l'autre, on se rendra compte de nos erreurs de jugement. Et cela est valable aussi dans le domaine de la foi. Je crois qu'un des obstacles à la foi, ce sont justement nos a priori, ou un des obstacles à nos progrès aussi dans la foi. Ce sont nos a priori. Les non-croyants ont des a priori sur la foi, la Bible, la religion, Jésus. Et je ne leur jette pas la pierre, c'est normal. D'ailleurs, les croyants aussi ont des a priori, y compris sur ce que doit être la vie de croyant, sur l'Église, voire même sur Dieu. Qui peut prétendre que sa foi est exempte de tout a priori, de toute idée reçue ? Le vrai problème, ce n'est pas tellement d'avoir des a priori, parce qu'on en a tous, des idées préconçues. On en a tous. Mais le problème, c'est de faire de ces a priori des certitudes. Car des a priori, ça peut se remettre en cause, on peut se laisser remettre en question. Mais des certitudes, ça ne bouge pas beaucoup. Alors bien sûr, nous devons avoir des convictions. Un des propres de la foi chrétienne, c'est aussi d'avoir des convictions fortes, des valeurs qui nous animent. Et on en a besoin pour que notre vie ait un sens. Mais nous devons nous méfier des certitudes absolues qui risquent de nous enfermer. Et là, on peut faire une différence très subtile entre des convictions qui nous poussent à progresser dans la foi et à creuser encore davantage notre foi pour mieux la comprendre et mieux la vivre, et des certitudes qui nous bloquent, qui nous empêchent de croire ou d'aller plus loin, de nous remettre en question. Si quelqu'un a des a priori négatifs sur la Bible, la foi ou Jésus, et qu'il en fait des certitudes, alors je comprends qu'il n'ait pas la foi et même qu'il n'en ait pas envie. Et si tout en étant croyant, nous avons laissé nos a priori concernant la vie chrétienne ou la personne de Dieu devenir des certitudes absolues, alors je crains que notre cheminement spirituel ne progresse plus vraiment. Parce que pour progresser, il faut savoir se remettre en question. Si je crois tout savoir, et tout bien savoir, et tout savoir à la limite parfaitement, alors je ne progresserai plus, je ne peux que régresser. Comment alors dépasser nos a priori ? Je vous propose que c'est dans le cadre de notre relation avec Dieu que nous pouvons dépasser nos a priori, en osant aller à la rencontre de Dieu comme avec dans le cœur le sentiment qu'on ne le connaît pas encore complètement, qu'on a encore besoin de le découvrir. C'est déjà vrai dans nos relations humaines. Si on veut vraiment connaître quelqu'un et dépasser nos a priori sur lui, il faut prendre le temps de la rencontre. Ça ne veut pas dire qu'on deviendra d'ailleurs forcément ami proche avec tout le monde. On ne va peut-être pas trouver d'atome crochu avec la personne vers laquelle on va à la rencontre, mais on ne va peut-être même pas l'apprécier, mais au moins, on connaîtra cette personne. Je me souviens d'une invitation que j'avais acceptée lorsque j'étais pasteur à Ilkirch, et c'était une association qui s'appelait Le Dialogue, qui avait invité plein de monde, et cette association était de confession musulmane, et elle avait invité des chrétiens et puis d'autres personnes encore pour un repas, et puis pour tout simplement apprendre à connaître des chrétiens. Pourquoi ? Parce que, en fait, les chrétiens, on vit beaucoup entre nous, malheureusement. C'est aussi bien, hein, d'être entre nous, mais malheureusement, on vit peut-être trop entre nous. Et puis, il y a tout plein de parties de la société avec lesquelles on est très peu en contact. Et des fois, les musulmans. Les musulmans, il y en a plein dans le quartier. Je pense qu'en majorité, les personnes qui entourent géographiquement notre église sont de confession musulmane. Et on peut avoir plein d'a priori, faire plein de raccourcis sur leur foi. Mais est-ce qu'on a pris le temps de les écouter ? Et je me souviens, donc, dans cette invitation, avoir pu non seulement expliquer aussi ma foi à ceux qui nous avaient invités, mais en même temps, écouter quelle était leur foi, comment ils la vivaient. On pourrait parler aussi de nos amis catholiques. On croit connaître des choses qui nous dérangent dans leur théologie. Mais si on regarde, alors il y a des choses peut-être qui peuvent nous déranger, mais il y a des choses où on fait beaucoup de raccourcis aussi. Par exemple, avez-vous déjà entendu que les catholiques adorent Marie ? Eh bien, en réalité, en tout cas dans la théologie officielle, ça n'est pas vrai. Ils n'adorent pas Marie comme ils adorent Dieu. Ils distinguent bien dans leur théologie des niveaux, alors c'est peut-être un peu arbitraire, artificiel, vous allez me dire, mais de culte. Hein. Ils adorent Dieu, et Marie, on pourrait dire, ils la vénèrent. Il faut peut-être des fois laisser nos a priori, nos certitudes pour oser la rencontre. Autrement dit, on ne connaît l'autre que lorsqu'on l'a rencontré, qu'on s'est intéressé à lui. Il en va de même avec Dieu. Dieu d'ailleurs, qu'un théologien protestant bien connu du XXe siècle, Karl Barth, appelait le tout autre. Si Dieu est autre, il nous faut alors aller à sa rencontre pour le connaître. La foi, c'est avant tout une affaire de rencontre. Si on en reste à une simple croyance, alors on n'est guère allé beaucoup au-delà de nos opinions ou de certains a priori. Choisir la foi, c'est oser aller à la rencontre de Dieu. C'est apprendre à lui faire confiance, apprendre à le voir agir en nous et autour de nous, apprendre à entendre sa voix dans la prière, dans la lecture de la Bible, sans croire qu'on connaît déjà tout. Au début, peut-être que c'est un saut dans l'inconnu. Je vais à la rencontre de Dieu que je ne connais pas. Mais n'est-ce pas toujours le cas quand on apprend à découvrir quelqu'un qu'on ne connaît pas ? Alors, j'aimerais aussi nous adresser à nous croyants la même exhortation. Sachons laisser nos certitudes de côté pour oser la rencontre. Là, je parle des certitudes qui pourraient nous bloquer ou nous enfermer. Nous pouvons nous forger des certitudes absolues et croire que nous avons tout compris. Alors on tombe dans le même travers que les habitants de Nazareth avec Jésus. On croit déjà tout connaître de lui. Or, vous le savez, on ne peut jamais réduire Dieu à l'image qu'on se fait de lui. Il est toujours plus grand que ce qu'on peut s'imaginer. On ne peut pas le réduire non plus à notre théologie, aussi élaborée soit-elle. Pour approfondir notre foi, nous avons besoin d'approfondir notre relation avec Dieu, connaître sa personne. Osons la rencontre dans la prière, dans la méditation de sa parole. Nous avons chanté que nous voulons marcher dans la vérité, faire la volonté de Dieu. Et je n'ai aucun doute que nous avons chanté cela de tout notre cœur. Mais la question alors qui se pose maintenant, c'est comment connaître cette volonté de Dieu ? Comment connaître la vérité ? Eh bien, c'est dans le cadre de notre relation avec lui. La prière, la méditation de sa parole, l'écoute du Saint-Esprit. Même si ça peut parfois nous remettre en question, et surtout si ça nous remet en question. Parce que c'est comme ça qu'on grandit dans la foi. Les a priori sont un piège. C'est vrai dans nos relations les uns aux autres, c'est vrai aussi par rapport à la foi. Ne faisons pas de la foi une certitude qui nous enferme dans une posture rigide. Cherchons toujours une foi vivante, fondée sur une relation avec Dieu. Osons aller à la rencontre de notre prochain et à la rencontre de Dieu pour dépasser nos a priori. Amen.